Conférence théosophique, Association Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « L'éthique et l'éducation des enfants selon la théosophie ».
Voici ce qu'on peut lire à la page 283 et 284 de la clé de la théosophie. Ce qu'il faudrait enseigner aux enfants par-dessus tout, c'est la confiance en soi, l'amour de tous les hommes, l'altruisme, la charité mutuelle. Et surtout, il faudrait les habituer à penser et à raisonner par eux-mêmes. Nous réduirions à un strict minimum tout travail de mémoire purement mécanique et consacrerions le temps à développer et cultiver les facultés de nos élèves, leur sens intérieur et leur capacité latente. Nous nous efforcerions de nous occuper de chaque enfant individuellement, de l'éduquer de façon à favoriser l'épanouissement le plus équilibré et harmonieux possible de tous ses pouvoirs, afin que ses aptitudes particulières parviennent à leur plein développement naturel. Notre but serait de créer des hommes et des femmes libres, libres intellectuellement, libres moralement, sans aucun préjugé en quoi que ce soit, et par-dessus tout, affranchi d'égoïsme. Et cela, croyons-nous, pourrait être réalisé en grande partie, sinon en totalité, par l'effet d'une bonne éducation véritablement théosophique.
Merci. Nous avons compris que la théosophie propose une vision inspirante de l'aspect éthique de l'individu et surtout l'importance de l'éducation. Quand on voit ce que l'éducation apporte, évidemment on comprend qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement vital et d'indispensable dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Une part importante est gardée et consacrée à l'éducation. Après, ça dépend aussi de la vision des adultes. Mais on sait que lorsque les enfants naissent et qu'ils sont avides d'apprendre, parce que c'est la loi de la nature, on comprend aussi que l'éducation est un moyen pour ces petites éponges d'absorber tout ce que la vie a à apprendre et surtout les adultes ont à inculquer. Et donc, cette approche et même l'éthique dépendra de différentes sociétés. On sait qu'aujourd'hui, on voit avec la télévision peut-être les divergences et les convergences de l'interprétation de ce qu'est l'éthique. Mais on a entendu aussi dans les lectures qui viennent d'être faites de la vision que la théosophie peut offrir sur l'épanouissement de l'être humain, qui va aussi conditionner son comportement. Parce que l'éthique dans l'éducation va, bien entendu, conditionner le comportement du petit être qui va devenir très vite un adolescent et un adulte. Donc on ne va pas faire une grosse différence entre un enfant et un adolescent, bien que ça fait partie, on va dire, de la croissance naturelle et il faudra adapter les propos et les discussions selon l'âge et l'avancement mental de l'enfant, mais on voit bien que les graines sont semées depuis le début. Cette vitalité, cette énergie qui caractérise les enfants et cet enthousiasme, cette avidité à apprendre, fait partie d'un trait important de chaque enfant, mais la façon dont les idées sont perçues et sont intégrées par ce petit être dépendra de son caractère. Et ce caractère, c'est ce qu'il ramène d'une vie antérieure et même dans cette vie, c'est ce qui va faire que même des jumeaux, même des frères et sœurs dans la fratrie, dans la même famille, va avoir des affinités et des comportements très différents. Et là, le passé, le présent et l'avenir font partie aussi de cette idée qui sont intégrées dans l'éducation. Alors, pour la théosophie, l'âme est une étincelle divine, un ego, ego au sens du je, cette individualité, cette source qui va permettre à chacun très vite, à partir de l'âge de 3 ans, de voir qu'il est un peu différent des autres. Alors au début, l'enfant, vers l'âge de 1 an et demi ou 2, va commencer à parler, va s'appeler peut-être par son prénom, mais très vite, il va dire « je ». Et puis il va dire « mais moi, je veux répondre au téléphone, je veux ouvrir la porte, etc. etc. » Et c'est moi. Donc on voit bien qu'il y a cette affirmation du « je » qui correspond en fait à la présence de cet ego dans chaque individu. Et cette âme, elle est immortelle. Elle vient du passé, elle continuera dans l'avenir après cette vie, et elle va prendre dans cette vie tout ce qui correspond au butin de son éducation, qui va lui permettre d'assimiler à son caractère profond. Et elle va poursuivre sa vie en redonnant cette énergie qu'elle aura engrangée et puis qu'elle aura aussi intégrée dans son caractère, et poursuivra donc dans d'autres vies son pèlerinage pour pouvoir intégrer l'expérience d'une vie à l'autre. Le but étant, on va appeler ça l'émancipation, c'est-à-dire cette idée de réaliser que l'être est une âme immortelle. Cette petite définition peut nous paraître très loin de la façon dont on envisage les enfants, mais pas pour la théosophie. Parce que très vite, lorsque un enfant vit dans un milieu qui est réceptif à la vie intérieure, très vite il va poser des questions sur le je, le pourquoi, et peut-être même relater des rêves ou des réflexions profondes sur ce qu'il était avant. En fait, il ne faut pas s'attendre à une conférence, mais ça peut être en jouant. Et puis très vite, l'enfant va poser une question. Est-ce que tu sais ce que j'étais dans une autre vie, ou est-ce qu'il y a une autre vie, des choses comme ça? Et il faut être, si on est un petit peu ouvert à ces idées, capable de ne pas fermer la discussion et de dire « on ne sait pas vraiment, mais pourquoi pas, etc. » pour ne pas fermer la porte et pour ne pas inhiber ces questions que l'enfant ressent profondément. Et c'est ainsi que les portes de l'intuition, ce canal entre cette âme profonde et l'être qui est incarné, ce canal restera ouvert. Les portes de cette intuition ne se refermeront pas. Et il apprendra à s'interroger ou à essayer de comprendre profondément qui il était et de comprendre un peu plus, peut-être, des flashs, des éclairs d'intuition qu'il vivra. Et nombreux sont les enfants qui ont eu ce genre d'expérience. Très souvent, les adultes leur disent « mais non, ne pense pas, c'est rien du tout, etc. » alors que l'enfant a envie de poser ses questions. Et très souvent, lorsque il voit, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un enfant ne connaît pas la télévision, même si les parents restreignent l'utilisation de cette télévision, il voit très vite, et même quand il commence à fréquenter les autres, il voit très vite qu'il y a des choses qui se passent dans le monde, et il voit les guerres, les autres comportements, et il voit comment les animaux se comportent entre eux, etc. Et il va poser un certain nombre de questions sur la vie, la mort, etc. Avant de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet de l'aspect pratique, on va donner un cadre, mais il ne s'agit pas d'un cadre scolaire. C'est juste un cadre qui a été proposé aux personnes qui voulaient intégrer l'éthique de la théosophie dans l'éducation aux enfants, donc dans un ouvrage, par exemple, Les Vérités éternelles, ou dans d'autres ouvrages. Et ce sont des idées, en fait, qui ne sont pas des livres scolaires, mais il y a un certain nombre d'idées qui sont basiques, mais qui sont extrêmement importantes, qui vont donner le socle à une vision très ouverte de la vie. Premièrement, il y a cette idée de l'interdépendance de tous les êtres, très facile à énumérer, très facile à illustrer pour les enfants et pour les adolescents, et puis encore plus pour les adultes, bien entendu. Il s'agit de cette interdépendance qui va permettre de voir que la vie est partout. Parce que cette interdépendance, elle n'est pas juste théorique, elle n'est pas juste à partir du pain, la farine, etc., les exemples que l'on peut prendre. Mais elle existe, elle est de fait parce que la vie est là. La vie qui nous anime, la vie qui anime les animaux, la vie qui anime les plantes, etc., etc. Et on va encore pousser cette idée plus loin. Il y a l'idée du divin, d'un principe intelligent, du divin qui soutient tout, de quelque chose qui nous dépasse, qui est là et qui sera là quelle que soit notre façon de voir et même quand on ne sera plus là en tant que personne. Le divin est partout présent, soutient tout. Et pourquoi pas prendre une image qui est l'espace, et l'espace qui est là, dont personne ne peut s'abstraire de cet espace, et l'espace qui peut être un symbole. Alors, avec cette juxtaposition de concepts, on vient de voir l'unité fondamentale de toute chose et la première proposition fondamentale. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument inné que les jeunes et les moins jeunes comprennent et trouvent très logique. Et dans la vie de ces jeunes enfants, ils ont de multitudes de questions et ils viennent eux-mêmes avec beaucoup d'exemples pour illustrer ces vérités. Il y a une autre idée qui est liée à ça, c'est l'idée des saisons, de la saisonnalité, de la périodicité du jour et de la nuit, des cycles, de la réincarnation, pourquoi pas. Et il y a ce renouveau. Et dans ces conditions, cette loi de périodicité est considérée comme une opportunité, comme un cycle offert par la nature qui permet à chaque chose de naître, de s'épanouir et progressivement de mourir parce que l'aspect vital décline. Mais en même temps, cette mort n'est pas une mort, n'est pas une fin, c'est un recyclage. Donc, ces idées-là sont aussi extrêmement importantes. Et on verra que dans la vie de tous les jours, après, on peut trouver de nombreux exemples pour illustrer l'opportunité, la leçon que cette loi de cycle peut nous apporter. Et une troisième idée, c'est cette idée de progression. Parce que, bien entendu, on a compris que les cycles ne sont pas comme des roues qui sont répétitifs. L'interdépendance, la vie, toute cette opportunité qu'offre le champ de notre expérience n'est pas quelque chose de linéaire, mais de progressif. Il y a une progression qui n'est pas juste des bons, mais la nature opère ou œuvre comme la plante qui grandit par une série de petits pas où la petite rose qui va être cachée devient tout d'un coup un bouton et puis après, progressivement, ce bouton va s'ouvrir et puis la rose va apparaître, elle va se réveiller, elle va embaumer l'entourage et puis après, progressivement, au bout de quelques jours, quelques semaines, elle va flétrir et puis les pétales vont tomber, etc. Et ainsi de suite. Donc, cette idée de la progression. Et puis il y aura d'autres roses et puis la plante grandit. Donc cette idée de l'échelle de l'être à partir d'une rose, mais l'échelle de l'être c'est aussi quoi? C'est aussi de regarder qu'il y a bien sûr des plantes mais il y a aussi des animaux et on verra que très vite les enfants, on le sait, sont très attirés par les animaux et s'intéressent beaucoup à ce monde animal parce que quelque part ils se projettent, ils voient qu'il y a quelque chose en eux qui correspond à cette vie aussi. Et ils voient l'instinct maternel, ils voient les petits qui naissent, qui vont jouer, puis après qui vont devenir des adultes, quel que soit l'animal. Et puis progressivement, ils verront que l'animal va avoir, selon le type, l'espèce, une intelligence qui va se manifester différemment. Et puis après, il va aussi regarder quand il va aller à l'école et puis progressivement plus tard dans les plus grandes classes, l'intelligence qui va progresser et qui correspondra à son évolution mentale. intellectuel qui va être là, l'intellect qui va très vite dépasser celui d'un animal, même si l'animal est très intelligent. Donc on va faire une différence entre l'intelligence et l'intellect. La capacité intellectuelle, le raisonnement, est très vite, c'est là où intervient en particulier l'aspect éthique, c'est que très vite, l'enfant comprend l'idée de ce qui est naturellement bon et ce qui est naturellement peut-être négatif, mais pas dans le sens du bien et du mal qu'il ne faut pas faire, mais il va comprendre que s'il touche un fer qui est très chaud alors qu'on lui demande de ne pas le toucher, il va se brûler. Ou il va comprendre que si on lui demande de ne pas prendre un objet qui est contendant et qu'il le fait en cachette et qu'il se coupe, ça aussi, ça fait partie des choses qu'un enfant va vite apprendre. Alors évidemment, c'est toute proportion gardée parce que en général, les adultes veillent. Mais ça fait partie de ces leçons. Et un animal a cet instinct et le petit de l'être humain, lui a non seulement l'instinct au début, mais après, ça laisse la place et l'instinct diminue la place à l'intuition et à cet aspect éthique qui va progressivement être, on va dire, nourri par l'éducation. Et c'est là où peut-être deux notions sont intéressantes, c'est que la théosophie dit, attention, il ne faut pas croire. Donc tout ce que nous venons de dire à propos de l'interdépendance, des cycles, de la progression, ce ne sont pas des choses que l'on inculque ou il faut croire, mais plutôt un peu des sujets de discussion et d'observation dans la nature. Et à partir de là, on va dire, il y a le libre arbitre. Et ça, c'est aussi un point très important. Le libre arbitre est cette partie de l'individu qui correspond à l'âme et à l'interrogation de l'être incarné vis-à-vis qui se tourne vers l'ego intérieur et qui se dit « Que dois-je faire ? Que choisir ?» Et dans le contexte global de l'interdépendance, dans le contexte global de l'unité de la nature et de cette fraternité universelle qui correspond vraiment à la base de cette chaleur humaine dans laquelle nous baignons, eh bien, les choix vont être dans le contexte éthique, s'il faut utiliser des mots, on va dire, ce choix, c'est ce libre arbitre va s'exercer pour le bénéfice de l'ensemble, du collectif. Bien sûr, il y aura le bénéfice de l'individu, il va pas non plus se laisser souffrir comme ça, ce n'est pas dans le sens de la nature, mais il va aussi intégrer les autres dans son choix. Et cette décision, cette capacité de décision va prendre une coloration extrêmement bénéfique pour le petit être. Donc, la vie de cet être est souvent imagée comme un sentier et va avancer comme ça avec cette idée d'un sentier qu'il va parcourir. Bien sûr, il va voir les autres, les compagnons, mais il faut qu'il parcourt lui-même ce sentier. Il faut qu'il marche. Ça, c'est le cadre, on va dire, idéal, général. Et maintenant, on va revenir un peu sur Terre et on va prendre un certain nombre d'exemples pour illustrer les situations dans lesquelles cette aspect éthique peut s'exercer. Et on va pas donner de solutions en disant il faut faire ci, il faut faire ça, parce que chacun doit décider et on peut offrir un grand idéal et puis en tant qu'éducateur ou parent, ne pas être tout à fait à la hauteur et qu'on va pas donner de leçons ni culpabiliser les jeunes pour les difficultés. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout enfant qui a assisté de près ou de loin à l'école de théosophie ne part jamais les mains vides, mais part avec une idée très importante que nous allons reprendre d'ailleurs à la fin, en conclusion, cette idée du service de l'autre et de la fraternité universelle. On va prendre les sujets d'actualité, des sujets pratiques. On en a relevé un certain nombre, on n'aura peut-être pas le temps de tous les parcourir, mais en tout cas, quand on voit aujourd'hui les scènes de violence, les difficultés qu'il y a et qu'on voit que ça touche les enfants, ou que les enfants participent eux-mêmes et provoquent des scènes de violence, on a l'impression d'un échec de l'éducation. Mais on ne va pas rester que sur quelque chose de négatif, mais on voit qu'il y a une nécessité importante d'utiliser ces contextes pour réfléchir aux leçons. Dans un monde idéal, on va parler de non-violence. Dans l'éducation, évidemment, on comprend qu'on parle souvent du Bouddha, de Gandhi, etc., de tous ces grands êtres qui nous inspirent. Gandhi ou Martin Luther King, etc., sont des êtres qui ont essayé d'intégrer ces grandes valeurs. Le Bouddha a été un phare dans l'éveil de cette non-violence, le Ahimsa. Alors, comment peut-on utiliser cela? L'enfant va demander. Alors, on va lui dire, écoute, ça c'est l'idéal. Dans un contexte où tu peux être brutalisé, où il y a des conflits, il faut utiliser une certaine intelligence. Bon, si l'enfant peut éviter ces situations, tant mieux, mais parfois, dans une cour de récréation ou dans un autre contexte, on ne peut pas non plus être là toujours derrière les jeunes et les protéger. Il faut qu'ils fassent leur expérience. Alors, on peut dire oui, la non-violence en tant qu'idée globale, mais avec intelligence. La non-violence ne signifie pas se laisser taper sur la tête juste gratuitement. La non-violence doit être exercée avec intelligence. Elle doit faire partie de ce comportement qui évalue aussi le risque. Donc attention, ne prenons pas des risques inutiles en jouant héros, mais utilisons nos énergies pour vraiment pratiquer cette non-violence le plus intelligemment possible. Et si on ne peut pas l'utiliser, il y a cette attitude intérieure, et là, la Bhagavad Gita, par exemple, sera d'une grande inspiration. On sait que le conflit avait été inévitable dans un contexte, bien sûr, de mythologie, mais ce sont des cas réels. Et à ce moment-là, il a fallu faire son devoir, mais en s'entraînant d'une manière sincère et méthodique et complètement déterminée à être un être de non-violence, même si il a fallu défendre la bataille et prendre part à l'action de cette armée. On voit bien que là, c'est à chacun et à chaque enfant d'évaluer, de prendre les décisions. On est toujours ouvert à vos discussions, mais ces idées-là sont inculquées, bien sûr. Après, c'est à chacun de voir cette situation. Ensuite, le problème du sexe. On voit qu'aujourd'hui, la sexualité dans un monde où, que ça soit dans une partie du continent où on va demander à la femme d'être complètement voilée de la tête aux pieds jusqu'à dans une autre partie du monde à dire, ben, finalement, j'ai le droit de faire ci ou ça, c'est ma liberté, et etc. C'est à chacun, bien sûr, de décider, mais on va montrer que chacun est responsable. Et on ne peut pas changer ou provoquer ou même modifier les lois de la nature de manière, on va dire, gratuite. En même temps, l'âme n'a pas de sexe. Le genre appartient au corps. Homme, femme, voilà, on est là. Finalement, il y a une fonction, il y a une certaine importance dans un certain contexte, mais au niveau de l'âme, au niveau de l'éthique, c'est peut-être le parcours de l'âme avait besoin de faire telle ou telle expérience, mais finalement, qu'est-ce qui importe? C'est de considérer qu'il y a ces choses-là qui sont offertes par la nature pour une raison bien précise. On voit les animaux, on voit les plantes, on voit les oiseaux, etc., etc. Mais au-delà de ça, n'accordons pas une importance qu'au corps physique et à ses pratiques. Encore une fois, ce sont des préconisations que l'on peut donner et selon le dialogue que l'on a avec les jeunes et aussi leur propre expérience, parce que l'enfant qui est très fort et déterminé et le jeune, l'adolescent qui a une idée bien claire et qui est bien dans ses baskets, qui se tient bien, qui a la tête bien faite, ne va pas se trouver gratuitement tout d'un coup dans une situation complètement rocambolesque. Ça peut arriver, mais en général, il y a une certaine logique dans le karma. Ensuite, il y a l'idée des pouvoirs. Mais là, encore une fois, c'est très lié à l'idée qu'on vient d'évoquer à propos du sexe et de la sexualité. Mais il y a aussi l'idée des pouvoirs. Alors, il n'y a pas que ces notions de sexe, mais quand un enfant est en train de grandir et qu'on a l'occasion de parler, on va lui montrer que les pouvoirs, les émotions, ce sont des outils à la disposition de cette âme. La colère, la joie, la frustration, tout ce que les sens peuvent apporter. Je peux voir la télévision, mais je peux ne pas la voir, mais je peux aussi sélectionner ce que je vois. Et à partir du moment où on commence à faire la distinction entre le perceveur et ce qui est apporté par les sens et ce que l'on voit comme objet, donc on voit bien l'objet, ce qui est véhiculé par les sens et le perceveur, bien entendu là on simplifie un peu cette démarche, la perception ou en fait la décision de l'enfant va être très vite remise en question. Il ne va pas demander simplement à voir telle ou telle chose, où il va commencer à sélectionner ce qu'il va vouloir voir, ce qu'il va dire, l'expression, les mots qu'il va utiliser. Parce que là aussi, il y a dans la société actuelle, en tout cas dans les sociétés où nous vivons ici, un certain laisser-aller où on dit ce qu'on veut, on a le droit de s'exprimer, on veut, etc. Mais il y a aussi le pouvoir, celui qui est là, le perceveur, le décideur, qui peut sélectionner ce qu'il veut voir, qui peut sélectionner ce qu'il veut entendre, qui peut sélectionner ce qu'il veut sentir. Et donc, cette analyse qui après peut être peaufinée par chaque individu, et nous avons de très bons psychologues et des psychanalystes, etc., qui peuvent aider, va permettre à l'enfant de ne pas s'identifier à ce qu'il voit et à faire cette distinction et s'identifier à ce qu'il est profondément. Et ça fait partie des premiers pas que l'on peut donner. Et il y a dans notre société où il y a beaucoup de compétition, il y a une grande pression démographique et une pression dans la société avec la compétition, il y a ce stress, le temps. Ça fait partie du Kali Yuga de notre époque, où les choses vont très vite. Alors, on a bien sûr les outils. Aujourd'hui, on a Internet. On clique sur Internet. Le destinataire reçoit le message et on veut que ce qu'on a demandé soit exécuté tout de suite, etc., etc. Donc ça, c'est déjà dans le monde des adultes, on le voit, mais c'est aussi vécu chez les enfants. Alors, on va dire le stress, l'échec, la déception, etc., ça fait partie de cet échange. Alors, est-ce que lorsqu'un enfant revient avec un échec, que ce soit scolaire ou un échec dans l'amitié ou une dispute, etc., est-ce que il est légitime qu'il ait de l'anxiété ou de la tristesse? Oui, c'est normal, on va être à l'écoute, on va essayer de consoler, mais en même temps, si on a la capacité, qu'on est convaincu que c'est comme ça même pour soi-même, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'être fort. Qui sait combien de fois on est tombé quand on a appris à marcher. Pourtant, on l'oublie. Quand on avait un an et demi, on a commencé à faire des pas avant de courir partout. Et pourtant, on est tombé, on a pleuré, on nous a consolés. Et pourtant là, il y a un petit zéro dans un devoir, et il y a un refus pour une candidature et nous voilà complètement stressés, on va pleurer. Non, ce n'est pas grave, on va se relever. Et là, c'est la magie de la loi des cycles, la loi de la périodicité va nous permettre de voir que les cycles, ça fait partie d'une grande opportunité que la nature nous offre, et aussi de ne pas s'attacher, parce que, à l'opposé, si on reçoit une réponse favorable et qu'on a un 20 sur 20 dans un devoir, ce n'est pas quelque chose de complètement acquis, on n'est pas ce 20 sur 20. on l'a eu, bah tant mieux, on va essayer d'aider et de rester humble, mais on va aussi ne pas s'enorgueillir, soit parce qu'on a eu ce résultat qui est un succès. Donc là, encore une fois, la loi des cycles nous permet de prendre du recul, de voir que ça fait partie des opportunités, mais en même temps des leçons profondes que le livre de la vie nous offre. La mort, pareil, très vite on sera côtoyé. Vous savez qu'il y a des enfants tout près de nous qui ont perdu, et malheureusement on voit dans certains pays des enfants qui, à la suite de guerres, se retrouvent complètement démunis dans la rue. C'est un échec pour les adultes, mais en ce qui nous concerne, on peut dire que la mort ne signifie pas la fin de tout. Un enfant peut perdre sa grand-mère, comme un enfant peut perdre sa mère, comme peut perdre son petit frère, etc., etc. Et nous, même si on n'a pas la réponse à tout, et il ne faut pas donner des réponses figées, il faut montrer que finalement, le véritable grand-père, la véritable grand-mère, etc., continue quelque part, même si il va prendre d'autres formes, mais ce n'est pas grave, c'est comme nous-mêmes. Et quelque part, il est dit en théosophie que nous portons cette réminiscence, cette mémoire intégrée. Et donc, l'enfant peut comprendre ces choses-là. Et quelque part, ça donne une grande, on va dire, consolation. Donc, dans cette idée, on voit que karma est une loi qui est l'interdépendance. Mais un autre aspect de karma, c'est de dire, attention, karma, c'est nous-mêmes. C'est pas quelqu'un qui va réajuster les effets aux causes, mais nous le portons en nous-mêmes. C'est nous qui sommes les capitaines du navire. Et à ce moment-là, on va pas pouvoir tricher. Non, on va pas pouvoir tricher, on va pas vouloir tricher. Parce que ça ne rime à rien. C'est contradictoire avec l'idée de karma. Nous sommes responsables, assumons les erreurs que nous avons commises, et puis on va avancer. Donc il y aurait beaucoup d'autres idées. Un dernier point peut-être, c'est à propos de l'hérédité. On donne beaucoup d'importance à l'hérédité physique, surtout dans des familles quand il y a des petits-enfants, etc. Mais au-delà de cette hérédité, il y a de nombreux enfants qui ont été adoptés, des enfants qui sont là, qui n'ont pas été adoptés, qui ont leur propre hérédité. Et nous-mêmes, nous sommes non seulement l'enfant physique de nos parents, mais quelque part en nous-mêmes, nous sommes intellectuellement et spirituellement les enfants de grands êtres hiérarchiques et que nous sommes en quelque sorte. Nous sommes des êtres en évolution, des égaux. Et cette hérédité nous donne une certaine dignité. C'est le sens de l'humain, c'est la noblesse de nos origines. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons eu des enseignants qui étaient des sages, qui ont accompagné l'humanité dès son enfance. Et c'est ce qu'on voit dans des mythes et dans des récits, des légendes. Mais ce ne sont pas juste le fruit de l'imagination, il y a une certaine mémoire de l'humanité qui montre que nous avons une certaine noblesse dans notre hérédité. Donc que cela nous encourage à vivre à la hauteur de cette noblesse. En conclusion, nous lirons deux versets de ce petit livre bleu, qui est un peu un petit livre magique que certains enfants avaient dans des petites réunions que nous animions, qui s'appelle l'école de théosophie. C'est un petit livre bleu où on va lire deux versets, où il y a des idées inspirantes que les enfants aimaient bien lire. Le premier, c'est « Enfants de lumière, à mesure que vous avancez dans le monde, apprenez à rendre service à tout ce qui vit. » Et le deuxième verset, qui est en conclusion, celui qui aime, vit. Celui qui s'aime lui-même, vit en enfer. Celui qui en aime un autre, vit sur la terre. Celui qui aime les autres, vit au ciel. Celui qui, en silence, adore le soi de toutes les créatures, vit dans ce soi. Et il est la paix éternelle.